Il y en a qui ont voulu offrir sur des hauts lieux. À l'époque, il y avait des montagnes dans le pays d'Israël. Mais il y en a qui pensaient qu'en se mettant plus haut du ciel, peut-être que Dieu allait pouvoir les entendre de manière plus précise. Ça serait plus efficace leur sacrifice. Et il y a toutes sortes de personnes, le peuple qui offrait des sacrifices, des parfums. Sauf qu'à un moment donné, ils ont mis des idoles, ils ont mis toutes sortes de mélanges. Et en fait, c'était pas ce que Dieu leur avait demandé. Dieu avait choisi que ça soit dans un temple. Et tout ce qui s'est passé là, ça servait à rien. Ils ont beau offrir toutes sortes de choses, ça ne servait à rien. Il y a d'autres personnes au temps de Jésus, les pharisiens, qui eux, ils se sont mis dans des hauteurs, mais pas physiques, des hauteurs d'exigence. Ils se sont mis à avoir toutes sortes de traditions et ils avaient toutes sortes de coutumes que la Bible ne demandait pas, que l'Ancien Testament ne demandait pas, la loi de Moïse n'en parlait pas. Mais eux, ils sont restés dans ces exigences et ils s'y tenaient tellement qu'ils sont passés à côté de ce que Dieu voulait. Ils ont commencé à prendre leur tradition pour la parole de Dieu, prendre leur tradition plus que la parole de Dieu. Et le résultat, c'est qu'en croyant qu'ils plaisaient au Seigneur, ils ont fait totalement l'inverse. Et eux qui croyaient s'approcher du ciel, ils se sont retrouvés, certains, allés en enfer. Et le Seigneur a été obligé de les reprendre de manière sévère. Mais comment est-ce que nous, ce soir, nous pouvons prendre le sentier qui mène en haut? Eh bien, on va lire dans Philippiens, chapitre 3, une première piste. Pour prendre le sentier qui mène en haut, il faut répondre à l'appel qui retentit d'en haut. Philippiens chapitre 3, verset 14, il s'agit de l'apôtre Paul, verset 13, on peut lire même, l'apôtre Paul qui nous dit ceci: « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, Jésus-Christ, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, on voit que dans sa vie chrétienne, il n'était pas seulement en train de marcher sur le sentier de la vie, il était en train de courir même. De mettre tous ses efforts, de déployer ses efforts pour remporter le prix de la vocation céleste. Et littéralement, c'est dit l'appel d'en haut. La vocation céleste, c'est l'appel d'en haut. Ça veut dire que Dieu, en ce moment, est en train de faire retentir un appel du ciel pour nous prévenir qu'il faut que nous nous détournions du chemin qui mène à la mort. Parce que si Dieu est en train de faire retentir un appel, c'est que nous sommes en danger. C'est qu'il ne veut pas que nous continuions sur notre chemin. Et que si nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il nous dit, nous risquons la mort éternelle. Pensez à cette petite histoire qu'un prédicateur racontait. Un prédicateur qui était allé dans l'Himalaya, il avait vu une espèce de fleur qui sont, à cause du parfum de laquelle les hommes étaient plongés dans un état de sommeil. Et qui était conduit jusqu'à la mort. Et le prédicateur, il pensait, lui, que cette fleur, elle était, empoisonnée. Ça commençait à nous endormir, et puis après, il y avait un poison qui agissait. Puis il a demandé aux personnes qui connaissaient bien le secteur, et ils lui ont dit, non, c'est pas ça, c'est que les gens, ils s'endorment, et puis après, au bout de plusieurs jours, ils périssent parce qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Tout simplement. Et souvent, notre monde nous propose toutes sortes de choses qui paraissent belles. Les fleurs, c'est joli. Les dames, on aime bien recevoir des fleurs. Vous aimez bien recevoir des fleurs? Les fleurs, c'est joli. Ça nous parle de ces choses de notre monde qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui nous plongent dans un état de sommeil, dans un état d'assoupissement spirituel qui fait qu'à un moment donné, parce qu'on n'est pas alimenté, on court vers la mort. Et Dieu, c'est pour cette raison qu'il nous fait retentir cet appel qui vient d'en haut, pour que nous puissions nous réveiller, pour que nous puissions nous ressaisir, pour que nous puissions réaliser notre situation et trouver en lui le secours. Comment est-ce que Dieu nous appelle? Par la lecture de sa parole, déjà de manière personnelle, si je lis la Bible, si dans ma chambre je commence à lire ce que le Seigneur a fait, de quelle manière le Seigneur a agi, les enseignements qu'il nous a laissés, je peux être béni, je peux être réveillé, je peux entendre l'appel du Seigneur. Quand j'entends une prédication, ça peut être la même chose. Quand je discute avec les uns et les autres, je peux être encouragé, je peux être remis en question. Quand le Saint-Esprit parle à ma conscience. Il y a des fois où on fait quelque chose de mal et il y a personne ne nous dit rien, mais le Saint-Esprit parle à notre conscience et nous dit « Attention, ce que tu fais là, c'est pas bien ». Le problème, c'est que souvent, à cette conscience-là, on résiste, on ne veut pas écouter sa voix, et ce qui fait qu'à un moment donné, la conscience se tait. Des fois, c'est par les événements tragiques. Quand on voit ce qui s'est passé il y a quelques semaines, il y a beaucoup de gens qui ont été remis en question et qui ont commencé à se poser des questions même par rapport à Dieu. Mais souvent, on peut chasser cette pensée-là, sérieuse, par toutes sortes de pensées éphémères. Parce qu'on n'est pas sérieux avec nous-mêmes. Il y a des fois, on l'a vu la semaine dernière, quand on a eu un enterrement, et des fois, c'est par le deuil que Dieu parle à notre conscience, que Dieu nous parle, nous interpelle, nous appelle. Et je réfléchissais, en une semaine, il y a 3 personnes qui sont décédées, que j'ai entendu parler. Il y a une dame de 91 ans. Là, on peut se dire, bon, après tout, c'est la vie qui veut ça. Il y a une dame de 49 ans. Là, on peut se dire, bon, 49 ans, c'est quand même pas trop vieux. Tout à l'heure, on parlait d'un jeune homme qui a mon âge, 33 ans. Et en même temps, ce dimanche, il y a une dame qui va fêter ses 96 ans, je crois. Et on peut se dire qu'après tout, notre vie ne nous appartient pas. Peu importe l'âge qu'on a, le Seigneur peut nous reprendre à 33 ans, à 80 ans, à 100 ans, s'il faut. Mais le tout, c'est qu'on a besoin d'être prêt. Et on a besoin, pour être prêt, d'entendre cet appel qui retentit dans le ciel. Quand on est confronté au deuil, oui, c'est des moments où que Dieu permet pour que l'on puisse réfléchir. En tout cas, par tous ces moyens que le Seigneur a déployés, il nous appelle. Est-ce que nous allons y prendre garde? Parce que la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et c'est ça l'embêtant. Ce qu'on a chanté, c'est que je me taire pour entendre la voix du Seigneur qui me parle. Si je veux marcher sur le sentier de la vie, il faut que j'entende cet appel du Seigneur, mais aussi il faut que je reçoive le témoignage qui a été donné d'en haut. Dieu ne s'est pas contenté de nous appeler. Dieu ne s'est pas contenté de faire retentir sa voix, mais il a envoyé son Fils bien-aimé pour nous parler du ciel. Qui était le mieux placé, oui, de tous les hommes, pour nous parler du ciel, si ce n'est quelqu'un qui était dans le ciel avant? On est d'accord? Pour que je puisse vous parler du meilleur restaurant de Toulouse, il ne suffit pas que j'aille voir sur Internet si les commentaires sont bons, il faut que moi-même j'y sois allé et que je vous ai dit oui, c'est vrai. Parce que si j'y suis allé et que je me suis rendu compte qu'il y avait un cheveu dans la soupe, il y avait toutes sortes de choses qui n'allaient pas, le serveur qui fait tomber le plat, qui remet dans l'assiette, vous comprendrez que sur Internet, si ça se trouve, c'est le serveur lui-même qui met les commentaires, c'est parfait, c'est génial. On peut se faire tromper. Tandis que là, le Seigneur Jésus lui-même était dans le ciel, c'est lui qui nous rend le témoignage du ciel. Regardez ce qu'il est dit dans Jean, chapitre 3, verset 13. C'est exactement cette idée qui est reprise. Jean, chapitre 3, verset 13, il est dit « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus est celui qui était au ciel. Mais juste après, au verset 31, c'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus. Les gens pensaient que Jean-Baptiste était peut-être le Messie. Et Jean-Baptiste, il dit, non, attention, comprenez bien ceci, celui qui vient d'en haut, il est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre, il parlait de lui-même. Il parle comme étant de la terre. Mais celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Mais regardez ce qu'il est dit, personne ne reçoit son témoignage. Parce que Jésus est venu apporter un témoignage tellement glorieux, mais les gens sont laissés libres de recevoir ou non ce témoignage. Certains, heureusement, le reçoivent. Certains l'ont reçu. Certains parmi nous, ce soir, l'ont reçu, ce témoignage, et peuvent attester que c'est vrai. Mais il y en a qui ne l'ont pas reçu. Même au milieu des Juifs, des personnes, des pharisiens dont on parlait tout à l'heure, qui ont entendu ces merveilleux témoignages du Seigneur, qui parlaient du ciel, eux, ils pensaient qu'ils voulaient prendre leur place, ils pensaient qu'ils voulaient enseigner des nouvelles doctrines. Parce qu'ils étaient tellement enfermés dans leur tradition qu'ils ne se rendaient pas compte que le sentier de la vie que le Seigneur leur traçait, ce n'était pas le sentier dans lequel ils étaient eux. Ils avaient totalement l'esprit faussé par la tradition et la religion. Celui qui est monté au ciel, celui qui est venu du ciel, c'est celui qui peut nous apporter ce témoignage merveilleux. Et on va le détailler ce témoignage, parce que si on veut recevoir le témoignage, il faut le comprendre. De quoi il est question ? On ne peut pas recevoir quelque chose comme ça. Regardez Jean chapitre 8, on reste dans Jean, donc c'est juste après. Jean chapitre 8, verset 23, justement le Seigneur qui parle de ce témoignage. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Jésus, c'est le seul qui pouvait dire ça. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Et regardez ce qu'il ajoute, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans votre péché. Le témoignage de Jésus, c'est justement que nous puissions découvrir ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le Dieu a permis qu'il puisse nous apporter? C'est ça le témoignage de Jésus. Si nous comprenons qui est Jésus, alors nous pouvons recevoir son témoignage et nous pouvons être au bénéfice de sa grâce. Justement, première chose, Jésus, c'est celui qui nous communique la grâce de Dieu. Vous connaissez ce verset où il est dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et un autre passage nous dit « La grâce et la vérité sont venues à Jésus, par Jésus-Christ. » Dieu et veut faire grâce aux hommes et le moyen qu'il a choisi pour faire grâce aux hommes, c'est d'envoyer son Fils bien-aimé, celui qui était innocent, celui qui était d'en haut pour sauver des hommes qui étaient d'en bas, ça veut dire avec tous leurs péchés, avec toute leur détresse, avec tous leurs défauts, avec toutes leurs failles, le Seigneur a choisi d'envoyer celui qui était d'en haut pour leur faire grâce. Est-ce qu'il y a justement une grâce plus excellente que la mort de Jésus à la croix? Est-ce qu'il y a un don plus parfait que le don de sa vie innocente pour nous, quand on y réfléchit? Toutes les grâces que le Seigneur peut nous faire après, quand on est au Seigneur, on vit des grâces par la suite. Mais ça n'a rien à voir. Ça ne se compare pas à ce que le Seigneur a fait. Et le sentier qui mène en haut, ça commence par une descente. Il y a une descente, il y a une pente qui est là, qui nous amène à nous-mêmes à nous rabaisser face à l'œuvre de Jésus. À descendre de notre piédestal. Vous savez, des fois, on est là, on a certains raisonnements qui font qu'on pense qu'on est bien, après tout, on pense qu'on mérite le ciel. Je discute des fois avec des gens, ils me disent, mais moi, j'ai rien fait de mal. J'ai pas tué, j'ai pas volé. J'ai pas fait de péché particulier. Le ciel, mais je mérite le ciel, oui. Et le sentier qui mène en haut commence par s'abaisser. Il commence par aller en bas et à comprendre que oui, peut-être qu'il y a l'orgueil dans mon cœur. Oui, il y a la propre justice, parce que je pense aller à l'église souvent, alors le Seigneur va me bénir, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des faux raisonnements, il y a la suffisance. Le Seigneur nous appelle à marcher dans l'honnêteté, dans l'humilité. Vous avez ce verset que j'ai lu tout à l'heure rapidement, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Il faut être vrai devant le Seigneur. La grâce de Dieu, c'est justement que tout en nous empêche de marcher sur le sentier de la vie, mais Dieu a choisi d'envoyer son Fils pour que nous puissions aller sur ce chemin de la vie. La grâce de Dieu, c'est qu'on était des ennemis, la Bible dit qu'on était ennemis par nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Mais sa grâce, c'est que maintenant Dieu peut nous être favorable, simplement si on vient par le moyen de Jésus-Christ, si on vient repentant, si on vient en demandant pardon pour notre péché, si on dit « Seigneur, je me rends compte que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est mauvais, oui, des œuvres mauvaises, j'en ai eu, des pensées mauvaises, j'en ai eu. Mais Seigneur, je crois que tu peux me délivrer. » Dieu ne peut pas faire grâce à quelqu'un qui ne reconnaît pas sa pauvreté spirituelle. Mais par contre, quelqu'un qui est vrai devant Dieu, quelqu'un qui dit « Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. » Mais le Seigneur va lui faire grâce. Luc, chapitre 1, verset 78, nous dit « C'est grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu que le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Jésus est le soleil levant, le moyen de nous éclairer, de nous montrer où c'est qu'il faut aller. Il faut que nous reconnaissions qu'on est dans les ténèbres. Il faut qu'on se rende compte que, oui, c'est vrai, sans l'œuvre de Jésus à la croix, ben, tout ce que je fais, c'est comme si je marche dans les ténèbres. Je ne sais pas où c'est que je me dirige. Bien sûr, j'ai ma volonté propre, j'ai ma liberté de conscience, mais je ne sais pas où c'est que ça me conduit. Et la preuve en est, c'est que notre monde, qui marche dans cette liberté de conscience, mais sans l'éclairage du soleil de justice, eh ben, il court à sa perte. On voit que toutes les décisions qui sont prises, au lieu d'arranger la situation, sont en train de l'empirer. Pourquoi ? Parce qu'on a mis de côté le Seigneur. Mais quand quelqu'un met le Seigneur dans sa vie, quand quelqu'un se laisse éclairer par le soleil de justice, alors on peut véritablement marcher sur ce sentier de la vie. Est-ce que quelqu'un se serait perdu? Est-ce que quelqu'un se sera besoin de direction? Des fois, on a besoin de direction dans nos vies sentimentales, ou dans nos vies professionnelles, ou dans une décision qu'on doit prendre, qui est importante quand même. Qui a besoin de direction? Alors croyez que le Seigneur Jésus est le soleil qui peut vous éclairer. Celui qui dirige nos pas dans le chemin de la paix. Le chemin de la vie, c'est aussi le chemin de la paix. Dans les temps de troubles dans lesquels nous vivons, de confusion, combien c'est important de marcher dans le chemin où il y a la paix qui repose. Le Seigneur promet que dans le ciel, il y aura une paix, un repos éternel, mais il promet aussi que dès aujourd'hui, à celui qui croit, il peut être dans la paix. Un autre verset nous dit, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira de grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis, qui étaient plus forts que moi. » Jésus est cette main de Dieu tendue vers nous, qui nous permet d'être délivrés de ce qui est plus fort que nous. Est-ce que, quand nous considérons nos vies, nous ne voyons pas en nous, ou autour de nous, des choses qui sont plus fortes que nous? Est-ce qu'il n'y en a pas? Il y aurait tellement de choses qui ne dépendent pas de nous, auxquelles on ne peut rien faire. Je pensais à l'exemple d'un homme qui est dans les sables mouvants. À un moment donné, il doit se rendre compte que tous ses efforts, tout ce qu'il peut faire ne sert strictement à rien. Il a besoin d'un secours extérieur. Et il y a des situations dans nos vies où c'est exactement pareil. Peut-être que c'est un péché avec lequel on se débat. Peut-être que c'est une attitude qui est là, une pensée dans notre cœur qu'on ne peut pas échapper. Il y a des gens qui me disent qu'ils sont dans l'angoisse et ils n'arrivent pas à ce que cette angoisse puisse passer. Il y a des gens qui sont dans la peur, qui vivent dans la peur de manière continuelle, la peur du lendemain, la peur d'aujourd'hui, la peur de refaire les échecs du passé. Il y a des gens qui sont dans la tristesse de manière continuelle. Il y a des gens qui sont dans la haine parce que quelqu'un les a blessés, ils ont du mal à pardonner. Il y a des gens qui sont dans le désespoir. Il y a des gens qui sont dans la timidité, toutes sortes de choses qui sont là, qui paraissent plus forts que nous. Qui a besoin de délivrance? Croyez que Jésus est cette main tendue de la part de Dieu. La main d'en haut qui nous retire des grandes eaux. Devant cette main tendue, nous avons le choix de soit de la saisir par la foi, soit de dire non, j'en veux pas, et de rester dans notre problème et d'enfoncer encore plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand l'homme qui est en train de couler dans les sables mouvants, il accepte de lever les yeux, il accepte de tendre la main pour qui veut le secourir, le résultat, c'est qu'il est sauvé. Qu'il est délivré de ce qu'il embêtait, de ce problème dans lequel il était trouvé. Jésus, c'est celui qui m'introduit devant Dieu. À la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Et quand je fais la paix avec Dieu, quand je suis réconcilié, je peux maintenant, dorénavant, accéder à cette présence du Seigneur, accéder à cette communion. C'est-à-dire que Dieu ne se contente pas de me sauver, et c'est merveilleux, mais Dieu veut être en communion avec moi, Dieu veut même habiter en moi par son esprit. Et c'est tellement important de vivre cela, mais je pensais à tellement de gens qui sont là comme devant le voile déchiré, et au lieu de pénétrer dans le voile déchiré, au lieu d'accéder à cette communion, ils commencent à servir Dieu devant le voile déchiré. Et ils se mettent à chanter des cantiques. Je prends cette image, ils chantent des cantiques, où ils prient, où ils lèvent les bras, et ils font toutes sortes de choses, mais c'est devant le voile déchiré, alors que Dieu les appelle à rentrer et à vivre dans cette communion. Tout ce qu'ils font devant le voile, ça ne sert à rien. Derrière le voile, c'était le lieu saint, c'était l'endroit vraiment qui nous parle de la communion avec le Seigneur. Et Dieu veut que nous marchions. Le chemin de la vie, il passe par cette vérité que Jésus nous introduit dans la présence de Dieu. Et Jésus, c'est aussi notre justification. On peut lire ce verset ensemble, Ésaïe 45, verset 18. Regardez ce qu'il est dit. Ésaïe 45, verset 8. « Que les cieux répandent d'en haut, et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie, et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. » J'aime ces versets parce que non seulement c'est de manière poétique, c'est joli, mais ça déclare des vérités tellement importantes que Dieu a choisi de faire de Jésus-Christ notre justification, celui qui nous justifie. C'est comme si je suis à un contrôle routier et que j'ai les papiers qui ne sont pas en règle. Qu'est-ce qui se passe si les gendarmes m'arrêtent, que mes papiers ne sont pas en règle, que j'ai un défaut d'assurance par exemple? Je dois laisser la voiture, je dois arrêter mon chemin là. Mais par la grâce de Dieu, Jésus est celui qui nous permet que dans le sentier de la vie, quand le Saint-Esprit sonde nos cœurs et contrôle si tout est en règle, et bien par la grâce de Dieu, ça marche. On peut rester sur ce chemin. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on est obligé d'être retranché du chemin. Et jusqu'au moment où on va le régler à nouveau. Mais Jésus, c'est notre justification. Jésus, c'est cette justice qui coule d'en haut. C'est croire que en recevant son témoignage, je peux devenir juste devant Dieu et je bénéficie de toutes les grâces que Dieu veut me donner, sa protection, sa providence, ses promesses. Ça vous intéresse d'avoir la protection de Dieu sur votre vie? Je veux dire, avec toutes les catastrophes qu'il y a autour de nous, on a envie de sa protection, sa providence, savoir que Dieu pourvoit à toute chose. La Bible nous dit qu'il a promis de pourvoir à notre nourriture. Il a promis de prendre soin de nous. Et toutes les promesses, la Bible nous parle des plus grandes et des plus merveilleuses promesses. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui ne vous ont pas fait des promesses peut-être et qui vous ont blessé. Et peut-être ce soir vous avez du mal à envisager d'entendre des promesses. Mais là, c'est la part de Dieu. Et c'est quelque chose qui est inébranlable, quelque chose qui est vrai. Si nous voulons marcher sur le chemin de la vie, il faut recevoir ce témoignage de qui est Jésus. Il fait tout ça, la justice, la présence de Dieu, c'est ce soleil d'en haut. Mais c'est aussi celui qui a dit cette chose dans Jean chapitre 3. Il a dit à un monsieur qui était un pharisien, qui était là en train de poser des questions par rapport à la vie spirituelle, à ce monde qui ne comprenait pas. Lui qui était docteur de la loi. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cet homme qui était tellement enraciné dans le monde d'en bas, il dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. De manière littérale, il est dit, naître de nouveau, c'est naître d'en haut, naître de cette vie d'en haut. Naître de Dieu. Et vous avez remarqué ce qu'il a dit, le Seigneur, il faut que vous naissiez d'en haut. C'est-à-dire, ce n'est pas une option. Ce n'est pas quelque chose avec lequel je peux être d'accord ou pas d'accord. C'est quelque chose que le Seigneur m'appelle à vivre véritablement. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez d'en haut. Si vous voulez marcher sur ce chemin où Dieu vous bénit, où Dieu vous fait grâce, il faut que vous naissiez d'en haut. Il faut que vous-même, vous puissiez prendre part à cet acte. Oui, Jésus, il a fait toutes sortes de choses. Jésus, il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Mais il y a aussi notre position à chacun. Notre acte personnel à chacun. Le premier pas de chacun pour commencer à marcher sur ce chemin. Mais oui, c'est passer par cette repentance et cette conversion. Cette nouvelle naissance. Et le Seigneur a promis, si nous nous repentons, si nous nous convertissons, si nous naissons de nouveau, il a promis qu'il nous aiderait. Vous savez comment? Deux choses. Par sa sagesse, il nous parle de cette sagesse d'en haut encore une fois. Elle est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Ça, c'est la sagesse qui vient d'en haut. Est-ce que peux me poser la question, est-ce que nous pensons avoir toujours cette sagesse? Est-ce qu'on n'a pas besoin peut-être de dire ce soir, Seigneur, oui, je veux pas seulement être entré sur le chemin de la vie, mais je veux continuer à marcher de façon régulière, de façon continuelle sur ce chemin, et je sais que ça passe par la sagesse. La Bible nous dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Le sage, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est le sage qui marche sur le chemin de la vie. Est-ce que notre sagesse est élevée d'en haut? Est-ce qu'on ne s'appuie pas peut-être sur nos propres forces, notre propre intelligence? Des fois, on est là, on essaie de comprendre nos épreuves avec notre intelligence à nous, plutôt que de plonger nos regards dans la parole et de dire, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin que tu me révèles quelque chose qui va me permettre de tenir bon. Tu vois, Seigneur, si je suis dans la faiblesse, je crois que dans ta parole, je peux être fortifié. Si je suis dans l'abattement, Seigneur, je crois que tu vas pouvoir m'encourager à nouveau en lisant ta parole. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Sagesse pure, conciliante, modérée. Est-ce que des fois, on n'a pas besoin de modération? Quand on voit des gens qui sont prêts à faire toutes sortes de choses, mettre tous leurs efforts et que ces efforts qui ne servent à rien, les gens qui pensent que parce qu'ils vont répéter toutes sortes de prières pendant un certain moment, Dieu va pouvoir les exaucer. Alors que Dieu a dit, non, prie-moi de tout ton cœur. Prie-moi avec honnêteté et je répondrai à ta prière. Et Jésus a promis qu'il enverrait l'Esprit, la puissance d'en haut. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons sur le sentier de la vie, mais il veut que nous puissions avoir cette force pour marcher, avancer avec efficacité, avec vraiment un zèle, une ferveur, une passion pour le Seigneur. Et ça, ça passe par le revêtement de la puissance d'en haut, ça passe par le Saint-Esprit. Tout cela, les yeux fixés vers ce que le Seigneur a prévu pour nous. On est d'accord que si on est né de nouveau, si on est né d'en haut, alors on va avoir l'héritage, on l'a chanté tout à l'heure, l'héritage que le Seigneur accorde à tous ses rachetés. Si quelqu'un naît dans ma famille, et c'est le cas pour Licia qui est arrivée il y a quelque temps, elle va avoir accès, et un peu plus tard, quand je serai mort, à mon héritage. C'est comme ça que ça marche, c'est légal. Bon, ça, elle n'aura pas grand-chose, mais au moins elle aura quelque chose. Elle devra le couper en trois avec les autres qui sont là. Mais c'est la même chose pour nous quand on est né d'en haut, quand on est né de Dieu, quand on est devenu les enfants du Seigneur, nous avons accès à cet héritage. Nous avons accès à cette vie que le Seigneur promet, accès à la Jérusalem d'en haut, accès à la ville sainte, accès à la présence de Dieu de manière continuelle, sans obstacle, sans toutes les choses d'ici-bas qui veulent empêcher cela. Quand nous serons avec le Seigneur, ce sera merveilleux. Là où nous aurons été persécutés ici-bas, nous aurons en haut la protection éternelle. Et là où nous aurons eu ici-bas les rires des moqueurs, il y en a qui ont déjà reçu des rires moqueurs, sachez qu'en haut, vous recevrez la récompense. Peut-être en bas, on a reçu la condamnation des hommes. Et en haut, le Seigneur nous promet d'être consolés. Peut-être en bas, on a été accusés à tort. Et en haut, on pourra adorer le Seigneur de manière continuelle. Peut-être qu'en bas, on aura été blessés par toutes sortes de situations. Le Seigneur nous promet un bonheur éternel. Tout ça, ça se trouve dans sa présence. Tout ça, ça se trouve au bout du sentier de la vie qui mène en haut. Alors, mes amis, ce soir, où c'est qu'on en est sur ce sentier? On pourrait continuer des heures et des heures à parler du sentier de la vie, mais est-ce que l'important, c'est pas de savoir où c'est qu'on se positionne par rapport à ce sentier? Peut-être que j'y suis pas encore. Alors, il faut que vous naissiez de nouveau. Peut-être que j'y suis déjà, alors il faut que vous ayez la sagesse, l'Esprit de Dieu pour avancer encore plus. Peut-être que vous êtes bientôt prêt à aller à l'héritage d'en haut. On ne sait pas de quoi la vie est faite, de quoi demain sera fait. En tout cas, ce soir, on peut prendre cette décision de dire, Seigneur, oui, je veux marcher sur ce sentier. Je veux avoir une claire révélation de qui tu es. Je veux comprendre que tu es le Sauveur. Je veux comprendre que tu es le Seigneur. Je veux comprendre que tu es le soleil de justice, celui qui peut m'éclairer. Seigneur, oui, je veux entendre l'appel que tu es en train de me lancer ce soir. On va s'incliner, fermer les yeux et prier le Seigneur. Éternel, tu connais les cœurs. Tu sais ce que nous avons besoin d'entendre. Tu vois, Seigneur, où c'est que nous en sommes, c'est vrai, sur ce chemin, sur le sentier de la vie. Oui, nous voulons, Seigneur, dans ces instants, que ta sagesse puisse nous envahir, afin de nous ouvrir les yeux, et que nous discernions là où nous en sommes devant toi. Est-ce qu'il y a un péché qui est comme un obstacle, qui nous enchaîne ici-bas, qui nous empêche d'accéder à ce chemin de la vie? Oui, Seigneur, permets que ta grâce nous le montre, afin que nous l'abandonnions, que nous le confessions. Seigneur, tu es celui qui sauve, tu es celui qui éclaire, tu es celui qui fait grâce, tu es celui qui communique la grâce. C'est vrai que nous ne méritons pas de marcher sur ce sentier. Et pourtant, tu nous l'accordes. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Parce que Jésus a été celui qui a apporté cette grâce de ta part. Ce soir, oui, fais retentir dans nos cœurs l'appel d'en haut. Cet appel du cœur de Père qui appelle après ses enfants qui sont perdus. Cet appel du bon berger qui appelle après sa brebis qui est en train de s'égarer. Oui, Seigneur, dans ces instants, fais grâce à quelqu'un, pardonne le péché de quelqu'un. Seigneur, fais du bien au cœur, rassure, tu vois, c'est la personne qui a l'impression d'enfoncer dans des eaux profondes, qui a l'impression d'être dans des problèmes plus grands qu'elle, Seigneur. Permets-la d'être délivrée en levant les yeux vers toi et en saisissant ta main, cette main tendue d'en haut, prêt à la secourir, prêt à la bénir, prêt à la guérir même. Éternel, oui, visite nos cœurs dans ces instants et fais du bien à chacun de nous. Pour ta gloire. Amen.